Notre ambition, c'est d'étendre Movecare à toutes les indications du cancer. Alors, c'est effectivement, comme tu le dis, un parcours du combattant. Donc, c'était un parcours qui est long, hein, qui nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps, des investissements financiers aussi conséquents. En ce qui concerne le déploiement des thérapies digitales, on peut observer qu'on est encore à un niveau assez précoce. Ce que je trouve qui a bien marché avec Movecare, c'est de partir bottom-up, c'est-à-dire de partir du professionnel de santé et du patient. Pour moi, c'est un accord qui restera dans l'histoire.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la Health Tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui, tous les jours, construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Ayala et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc je dois te dire, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast, j'en rêvais depuis un petit bout de temps. Pour remettre en situation, pour mettre en contexte pour nos auditeurs, tu es la CEO de Sivan Innovation, qui a été créée en 2013, si je ne me trompe pas, par Daniel Israël, et vous développez notamment Movecare, une thérapie digitale pour le suivi des patients atteints de cancer du poumon, et vous êtes notamment la première thérapie digitale remboursée en France et même en Europe. Donc on va parler de ça aujourd'hui pendant 30-40 minutes. Et pour commencer, la première question un peu habituelle, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours avant d'en arriver à Sivan Innovation et Movecare?
Bien sûr, alors bonjour Mériadec, donc Ayala Blia. Je viens de Strasbourg, française. J'ai fait Sciences Po et HEC, alors Sciences Po à Strasbourg et puis HEC à Paris. Et puis, j'ai débuté ma carrière en banque d'investissement aux États-Unis. J'étais pendant plusieurs années à la BNP, à San Francisco et à New York. Et puis, en 2011, on a décidé de déménager en Israël pour des raisons personnelles avec mon mari et mes enfants. J'ai trois filles. Et je me suis orientée vers le management au sein d'une grande entreprise agrochimique pendant 5 ans. Et avant donc de rejoindre Sivan.
D'accord, ok. Donc, tu voulais directement donner un petit peu une dimension internationale à ton parcours en partant aux États-Unis après tes études?
Oui, j'ai toujours voulu un petit peu explorer le reste du monde, même si j'adore la France, mais connaître un petit peu autre chose, voir d'autres mentalités, une autre façon de travailler, je trouve que c'est très intéressant. Donc, j'avais commencé par les États-Unis et puis après, voilà, Israël et demain, on ne sait pas, hein, peut-être que je finirai par retourner en France.
Et donc, qu'est-ce qui t'a fait débuter chez Sivan? Comment tu es arrivé là, en passant du groupe pétrochimique à une entreprise un peu plus start-up?
Alors, c'est une bonne question. On va dire qu'il y a 4 ans, je me suis un petit peu cherchée. J'ai commencé à ressentir un peu le besoin de faire quelque chose d'autre, qui soit plus utile à la société, voilà, qui avait plus de sens. Et là, donc par hasard, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Israël, donc qui a fondé Sivan, et le projet Movecare m'a passionnée. Alors bon, c'est vrai que pour moi, c'était déjà un défi personnel de diriger une entreprise, d'apporter un produit à sa commercialisation, et puis un défi d'autant plus grand qu'à l'époque, ça n'existait pas encore ce modèle économique, puisque Movecare est la première thérapie digitale remboursée en France. Mais c'était aussi, et enfin je dois dire ça l'est toujours, c'était toujours très gratifiant de se dire que ce qu'on fait, ça aide le patient, ça apporte quelque chose à la société. Donc c'est vrai que je suis très contente aujourd'hui de diriger ce projet, parce que d'un point de vue aussi personnel, ça m'apporte une dimension importante, on participe un peu à une petite révolution en santé qui a un impact positif pour les patients et pour la société.
Ok, donc juste avant de rentrer dans les détails de ce que vous faites avec Sivan et MoveCare, est-ce que tu peux nous dire bah, justement quel est ton rôle au sein de l'entreprise et peut-être à quoi ressemble ta journée type, s'il y en a une?
Alors, donc moi je dirige l'entreprise Sivan, donc je dirige deux sites, un site en Israël et un site à Paris. Ma journée type, on va dire.
Grosse question.
Alors, c'est une grosse question. Si tu demandes à ma fille qu'est-ce que je fais, elle va te dire bah, maman, elle fait des zooms.
Je pense que c'est un petit peu à la mode actuellement. Donc...
C'est ça. Donc, ma journée type, c'est des zooms. Donc, beaucoup de réunions un peu partout dans le monde. Bon, beaucoup en France quand même, parce que notre marché est essentiellement en France. Donc, c'est vraiment diriger les opérations, réfléchir à la stratégie, qu'est-ce qu'on fait demain, comment est-ce qu'on avance, comment on résout les problèmes, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes dans une entreprise. Comment améliorer le déploiement, comment améliorer le développement, quelles sont nos ambitions pour demain, etc., etc.
D'accord, donc c'est toi qui prends les décisions pour te déployer dans tel ou tel pays. Comment ça se passe par rapport à ça?
Oui, alors moi, je prends les décisions. Quand les décisions sont vraiment importantes, je les fais après valider, on les valide en board. Donc, on est trois personnes au board de Sivan. Donc, on a Daniel Israël, qui est donc l'investisseur unique pour l'instant de Sivan et le fondateur de la société. On a Paul Cohen et moi-même. Et donc, je vais... on va discuter ensemble avant de prendre une décision qui va vraiment impacter le futur de l'entreprise. Sinon, pour tout ce qui est opération, décision au jour le jour, c'est moi qui vais les prendre toute seule.
D'accord, ok. Donc là, bah, je pense que c'est le moment parfait pour que tu nous présentes un petit peu du coup ce que fait Sivan et MoveCare et peut-être la nuance entre les deux, parce que des fois, je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour comprendre.
D'accord. Alors, Sivan, c'est la start-up. Donc, c'est une start-up qui conçoit et développe des applications de santé. Donc, toutes ces applications de santé reposent sur des algorithmes cliniquement validés. Donc, on fait des études cliniques comme pour des médicaments pour valider nos softwares. Donc, la société a été fondée en 2014 par Daniel Israël et on est aujourd'hui une vingtaine de personnes, donc sur deux sites, un site à Paris et un site en Israël. Alors maintenant, MoveCare, c'est la plateforme. Donc, Sivan a développé une plateforme qui s'appelle MoveCare, qui est un dispositif médical, donc une application de santé pour la détection précoce des complications et des rechutes pour les patients qui ont un cancer du poumon. Donc, en fait, MoveCare, c'est la première thérapie numérique qui est remboursée par l'assurance maladie aujourd'hui en France. On a fait plusieurs études cliniques, donc vraiment comme pour un médicament, et on a démontré qu'un suivi avec MoveCare, ça permettait d'améliorer la survie du patient qui a un cancer, ainsi que sa qualité de vie. Donc on a quand même montré qu'on améliore significativement la survie de presque 8 mois. Donc pour un patient qui a un cancer du poumon, ça représente 26% d'amélioration, ce qui est significatif. On a une survie qui est assez faible, un pronostic qui est mauvais pour les cancers du poumon. La survie à 5 ans est de 15%. Et on a aussi pu démontrer que ça permettait une amélioration de la qualité de vie du patient. Alors, juste pour comprendre, parce que je pense que c'est fondamental pour comprendre MoveCare, les patients qui ont un cancer du poumon aujourd'hui en France et d'ailleurs à peu près partout vont voir leur oncologue qu'une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça va dépendre de l'état du patient, s'il est en période de surveillance, etc. Et très souvent, on va rater des choses, en fait, entre ces deux visites, ces deux bilans médicaux, ces deux imageries. On va souvent rater des choses. Donc, MoveCare permet, en fait, de détecter les problèmes au moment où ils arrivent et donc de pouvoir donner un traitement optimal aux patients. Et également, ça va permettre aux patients de se sentir beaucoup plus proches du médecin, plus rassurés. On a vraiment des patients qui nous disent qu'ils attendent finalement le lundi matin pour remplir ce questionnaire. Ils savent qu'à ce moment-là, quelqu'un va s'occuper d'eux, qu'ils vont avoir un suivi personnalisé. Donc, on parle vraiment ici d'une technologie qui est au service de ce lien humain pour améliorer la communication entre le patient et le médecin.
Et comment se passe l'analyse du questionnaire que vous envoyez toutes les semaines? Comment ça fonctionne un petit peu derrière, en coulisses?
Alors déjà, pour expliquer un peu le principe de MoveCare, on a un questionnaire qui va être envoyé une fois par semaine aux patients. Donc les questions reposent sur des symptômes, est-ce que vous êtes essoufflé, est-ce que vous avez du sang dans les crachats, etc., etc. Et là, on va avoir un algorithme qui va analyser les réponses. Et si le système détecte une complication ou bien une rechute, le système va automatiquement envoyer une alerte au médecin qui va pouvoir prendre en charge plus rapidement son patient. Donc en fait, c'est un algorithme qui va faire une combinaison entre les symptômes à un instant T et qui va aussi prendre en considération la dynamique des réponses, donc vraiment tout l'historique des réponses du patient. Et au vu donc de ces réponses et de l'analyse de l'algorithme, le système va décider, est-ce que j'envoie une alerte au médecin pour qu'il puisse prendre en charge son patient plus rapidement ou pas. Ce qui est vraiment fort dans cet algorithme, c'est qu'il a une sensibilité, une spécificité qui sont très importantes. Parce que si vous dérangez le médecin pour n'importe quoi, bon, vous n'allez pas être crédible. Donc ici, en fait, l'intérêt de MoveCare, c'est qu'il a été démontré qu'on avait quand même une spécificité, sensibilité de 89% et 100%. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, on va pas le rater. Par contre, s'il n'y a pas de problème, on va pas envoyer une alerte pour rien au médecin.
Et c'est des questions uniques ou il y a peut-être des échelles des fois. Donc, est-ce que vous vous en sentez essoufflé sur de 1 à 10 ou c'est juste oui, non?
Alors, on a trois types effectivement de réponses. C'est soit des types oui, non, soit c'est un scoring et soit c'est une réponse claire. Voilà, par exemple, le poids ou la fièvre où il faut remplir son niveau de fièvre si on a de la fièvre.
Je ne sais pas si ça tu peux le dire, mais ça vous a pris combien de temps pour développer cet algorithme et qui donne les premiers résultats qui commencent à devenir vraiment fiables?
Alors en fait, on va dire que tout a commencé en 2012. En 2012, au centre Le Mans, donc par un docteur français qui avait vraiment commencé des petites études de faisabilité. Il avait mis au point un algorithme qui avait démarré avec 5 questions uniquement. Et puis, au fur et à mesure, donc vraiment, c'est vraiment une construction qui s'est faite avec le patient. Il a affiné finalement son algorithme via des études de phase 2, des études prospectives. Et il a figé donc l'algorithme en 2014 quand Sivan a racheté les droits en fait sur l'algorithme. Donc, il a mis 2 ans finalement pour développer son algorithme. Et puis pas tout seul, hein, aussi avec des boards d'experts du cancer. Et en 2014, là, on a pris un algorithme qui était figé et nous, Sivan, on l'a validé finalement via une étude clinique de phase 3, donc prospective, multicentrique, randomisée, avec plusieurs centres pour valider cet algorithme spécifique.
D'accord. Justement, on reviendra un petit peu plus tard sur ces essais cliniques. J'avais une autre question à propos de votre déploiement. Donc, vous êtes déployé dans combien de pays, sur combien d'établissements et peut-être combien de patients vous suivez avec MoveCare?
Alors, aujourd'hui, notre marché principal, c'est la France. Donc, on est déployé dans 70 hôpitaux en France. On a une bonne centaine aujourd'hui de médecins qui utilisent MoveCare. Depuis le début des études cliniques, on a près de 700 patients qui ont été suivis avec MoveCare. Et on a un taux d'adhérence avec MoveCare, ce qu'on peut observer, qui est très fort, de 95%. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les taux d'adhérence des médicaments, mais c'est vrai qu'en général, ils ne sont pas si forts que ça, parce que souvent…
Je crois que c'est 50%, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ça. Donc, le patient va commencer, puis va arrêter, parce que ça lui crée des effets secondaires négatifs, etc. Donc, quand on dit 95% de taux d'adhérence pour MoveCare, c'est vraiment très fort. Ça montre que quelque part, ça rassure le patient et ça l'embête pas. On a aussi une forte satisfaction. On a 93% des patients qui recommandent l'utilisation de MoveCare. Ça, c'est pour la France. Après, on a démarré nos pilotes dans d'autres pays, hors commercialisation, parce qu'on n'a pas encore de remboursement ailleurs. Mais on a un pilote en Allemagne, notamment. En Israël, on va démarrer 2 pilotes dans 2 gros hôpitaux ici en Israël. Et puis aux États-Unis, on a aussi une étude de vie réelle à l'Institut Chapel Hill. Donc c'est une étude de vie réelle qu'on fait avec Dr Ethan Bash et qui a aussi pour but de générer de la donnée en vie réelle pour pouvoir présenter cette donnée aux payeurs aux États-Unis pour, in fine, obtenir aussi des accords avec les payeurs privés ou publics aux États-Unis pour prendre en charge MoveCare pour les patients.
Ok, donc là je vais te poser la question, je pense que tout le monde doit te poser. Comment ça se fait qu'une start-up israélienne, une entreprise israélienne, ait débuté finalement en France?
Alors, et je réponds toujours pareil. Je suis pas vraiment une entreprise israélienne. Disons, on est une entreprise franco-israélienne.
Ok.
Je dirais que notre ADN à tous ici est français, hein, en tout cas celui du board. Et puis Movecare aussi est issu de la recherche française sur des patients français avec des médecins français à la base. Donc pour nous, c'est vrai que c'était plus naturel de commencer l'aventure en France. C'est aussi un marché qu'on connaît beaucoup mieux, d'en faire bénéficier aussi d'abord les patients français. Après, on est heureux aussi hein, de bénéficier d'un écosystème favorable en Israël. On a une équipe R&D de haut niveau ici grâce à ça. Mais c'est vrai qu'à la base, je pense qu'on est plus français qu'israélien.
D'accord. Justement, là, on va arriver dans le gros du sujet, justement sur les challenges que vous avez, auxquels vous avez dû faire face. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours du combattant pour obtenir justement l'agrément de thérapie digitale remboursée en France ?
Alors, c'est effectivement, comme tu le dis, un parcours du combattant. Donc, c'était un parcours qui est long, hein, qui nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps, des investissements financiers aussi conséquents. On a aussi été accompagné par des consultants très experts. Hein. C'est vrai que mon conseil, c'est de se faire bien accompagner parce que c'est quand même un marché très spécifique et très compliqué. Je pense qu'on a aussi bénéficié d'une volonté politique très forte d'accélérer le digital en santé. Donc le contexte était favorable. Et pour revenir peut-être un petit peu à l'histoire, comment ça s'est passé, en fait, tout a commencé avec les résultats cliniques. Donc, on a eu des résultats cliniques qui étaient impressionnants, qu'on avait présentés à l'ASCO, qui ont fait pas mal de buzz au niveau médiatique et dans la communauté scientifique. Et puis, on avait quand même publié nos résultats dans le JAMA, le JNCI, donc c'est des revues scientifiques qui sont importantes. Et là, quand on a vu que Movecare permettait un gain sur la survie et une amélioration de la qualité de vie, j'ai envie de dire qu'on s'est dit que c'était logique qu'une thérapie qui avait un bénéfice clinique soit prise en charge par l'assurance maladie au même titre au final qu'un médicament. Et puis on avait aussi, au-delà du bénéfice patient, on avait aussi mis en évidence que un suivi avec Movecare permet de diminuer de 10% les coûts de suivi pour les patients qui ont un cancer du poumon. Quand on pense aux coûts qui sont très importants pour l'assurance maladie, quelque part c'était aussi dans l'intérêt de l'assurance maladie de prendre en charge des thérapies digitales comme Movecare.
C'est très intéressant que tu évoques le coût de la thérapie. Qui a déterminé justement le coût de la thérapie digitale et sa base de remboursement ? Comment ça s'est passé ?
Alors, juste pour expliquer comment le processus de remboursement marche en France, on commence par une commission de la HS qui s'appelle la CNEDIMT, donc elle qui va évaluer déjà le bénéfice clinique. Donc en avril 2019, on a eu un avis favorable de cette commission indépendante qui a décidé qu'effectivement Movecare avait un intérêt donc thérapeutique, un intérêt de santé publique. Donc on a eu un ASA 3. Une fois qu'on a eu cette évaluation favorable de la CNEDIMS, on est passé à une négociation avec ce qu'on appelle le CEPS. Donc c'est une autre instance de la HS avec qui on a négocié pendant un an. Et là, c'est vraiment c'est une négociation qui va. On s'est mis finalement d'accord sur un tarif qui à la fois était viable pour la société, hein, pour qu'on puisse démarrer l'histoire, un tarif aussi préférentiel pour la France, pour que la France puisse en bénéficier, et puis qu'il soit aussi un tarif qui soit acceptable pour l'assurance maladie.
Et ça n'a pas pris justement beaucoup de temps à déterminer ce tarif de remboursement, sachant que vous étiez les pionniers sur ce secteur-là, donc il n'y avait aucune base comparative.
Tout à fait, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de référentiel, on n'avait pas de base comparative, mais encore une fois, les discussions se sont faites en se disant, bon, qu'est-ce qu'on remplace? Si on devait, sans Movecare, en vie réelle, apporter le même bénéfice aux patients, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place comme coût? Donc finalement, si vous réfléchissez, plus de scanners, plus de visites avec des spécialistes, etc. Vous voyez, donc on peut quand même faire des espèces de comparaisons pour réussir à trouver un prix qui soit juste.
D'accord, je comprends mieux comment ça a fonctionné. Et peut-être une question, combien de temps ça a pris au total le processus à partir du moment où vous avez eu votre premier contact avec la HAS et le moment où vous avez obtenu le remboursement par la caisse par la CPAM? Combien de temps ça a pris?
Alors, on a eu nos résultats finaux en juin 2018. Donc premier dossier de remboursement, donc c'était juin 2018, et puis finalement juillet 2020, on a eu le prix. Donc 2 ans.
D'accord, 2 ans. Tout à l'heure, tu disais que vous avez été accompagné par des consultants. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type de consultant, à quel type de consultant vous avez fait appel pour vous aider sur ce processus?
Alors oui, bien sûr. Alors déjà, un cabinet donc expert en accès au marché. Nous, on s'est fait aider par le cabinet Next Step, qui nous a beaucoup aidé hein, pour accéder au remboursement. Des économistes de la santé, voilà. Hein, et puis au-delà des consultants de ce type, il y a aussi des KOL en fait, c'est-à-dire des experts, selon évidemment le domaine dans lequel on travaille. Pour nous, c'était le cancer, donc c'était les oncologues qui étaient utiles. Mais c'est vrai que pour la HH, parce que c'est très important d'avoir des experts dans le domaine qui puissent venir soutenir la demande. Donc des oncologues réputés. Nous, par exemple, on était accompagnés de docteur Livartowski, où on travaillait étroitement avec l'Institut Curie. Et je pense que le fait qu'ils soutiennent MoveCare et que l'Institut Curie, qui est quand même un institut renommé, comprenne rapidement l'intérêt de MoveCare, ça a un impact positif pour la HS aussi.
Je vois très bien du coup l'intérêt d'avoir des KOL qui nous entourent. Est-ce que tu observes déjà des différences entre la France et les autres pays dans lesquels vous êtes en train d'essayer de vous déployer ?
Alors, on a bien sûr déjà des cadres différents, on a des organisations qui sont très différentes d'un pays à l'autre, et puis je ne parle même pas des mentalités hein, qui sont très différentes, et finalement on fait du business avec les gens, donc ça a son impact. Je pense que certaines choses sont assez constantes. En ce qui concerne le déploiement des thérapies digitales, on peut observer qu'on est encore à un niveau assez précoce de structuration des règles, de la manière d'ajuster l'organisation de la santé. Donc, on va dire qu'on est dans un stade assez précoce avec à la fois une volonté assez forte hein, d'accélérer le digital. Finalement, on observe aussi quelque chose de constant entre les pays, c'est une pression exercée sur les systèmes de santé fortes, avec une population qui est vieillissante. Et puis en face, de plus en plus de maladies chroniques. Et puis on voit en face qu'on a pas assez de médecins, d'infirmiers. Donc les médecins ont pas assez de temps finalement à accorder aux patients. Nous, les médecins qu'on rencontre ont en moyenne entre 26 et 30 patients à voir par jour. Donc je te laisse imaginer.
c'est conséquent, ça fait des belles journées.
Oui, voilà, ça fait des journées très chargées qui en plus se doublent d'autres tâches administratives. Donc au final, on s'aperçoit que les médecins vont pas être nécessairement dans une approche préventive. Ils vont pas vraiment chercher le malade. On va souvent attendre que le patient aille vraiment mal pour s'en occuper. C'est vraiment l'intérêt de MoveCare. C'est-à-dire que si on attend qu'un patient aille vraiment mal pour s'en occuper, ben très souvent ça va être trop tard pour s'en occuper, parce qu'il sera plus dans un état stable, il pourra pas recevoir une full dose de chimio, immuno, etc. Donc on n'est pas assez dans cette approche préventive. Et encore une fois, hein, c'est difficile de blâmer les médecins hein, puisqu'ils sont assez écrasés par le système. Mais je pense que ce constat finalement dans plusieurs pays, et puis en plus avec la Covid qui a vraiment accéléré la prise de conscience qu'on avait des patients qui avaient été pas soignés ou qui avaient été mal soignés, des diagnostics qui avaient été faits trop tard, etc. On observe dans tous ces pays une course à l'innovation, une réflexion pour repenser le système dans sa globalité, et on commence à comprendre de plus en plus l'importance de l'outil numérique en santé. L'importance du digital, on commence à comprendre que le digital permet d'améliorer l'organisation des soins, permet d'améliorer la qualité de vie des patients, permet de réduire les inégalités aussi de soins entre les patients, je trouve que c'est aussi important. Donc on a vraiment cette prise de conscience dans plusieurs pays.
Tu viens d'évoquer la Covid, c'est un peu la question que tout le monde pose. Comment vous avez géré la crise ? Est-ce que ça a augmenté votre activité ? Est-ce que ça l'a diminué ? Comment ça s'est passé ?
Alors j'ai envie de dire que chez nous ça a eu un effet paradoxal, donc à la fois un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est que de mon point de vue, ça a accéléré la prise de décision du CEPS, parce qu'il y avait encore une fois cette volonté politique forte. On avait besoin d'un outil numérique, et la Covid, ça a ça a renforcé la prise de conscience du besoin d'un outil numérique. Donc, quelque part, finalement, pour le modèle économique, ça a été favorable. D'un autre côté, on va dire qu'on a quand même été impacté négativement parce que même si les médecins sont conscients qu'un suivi avec MoveCare, c'est un suivi nécessaire pour leurs patients, et quand vous êtes dans une situation avec la Covid où vous êtes finalement dépassé par les événements, vous avez même pas le temps de vous dire bon bah je vais mettre en place ce nouveau système. Vous pouvez pas vraiment voir, on n'a pas vraiment pu aller voir les médecins aux hôpitaux, dans les hôpitaux pendant un petit moment, enfin pendant même un long moment. Vous voyez, donc j'ai envie de dire qu'il y a vraiment les deux effets qui se sont corrélés pendant cette période.
Ça risque par contre d'augmenter après, parce que comme tu l'as dit, ça a été un peu un révélateur, la crise.
Exactement, exactement. Je pense que sur le long terme, au final, ça va être, ça va avoir un effet positif parce que, encore une fois, une prise de conscience que le digital est absolument indispensable finalement dans le suivi, pour le suivi des patients.
J'avais également une grosse question parce que vous avez obtenu du coup la possibilité d'être remboursé depuis 2019. Et ma question, c'est donc de savoir comment vous avez financé tout le développement avant 2019 et notamment l'essai clinique de phase 3, parce que je sais que c'est des processus qui sont très très chers. Comment vous avez financé tout ça avant?
Alors, on a eu la chance d'avoir un investisseur, donc encore une fois, hein, c'est le fondateur, c'est Daniel Israel, donc c'est l'investisseur unique.
D'accord.
Qui a une autre société, il est président d'une société qui s'appelle Sephira, donc qui est experte dans le tiers payant en France, basée au Mans, et une société donc qui fait un beau chiffre d'affaires, qui génère de beaux revenus, donc du coup, il a pu, grâce à Sephira, financer l'activité de Sivan pendant toutes ces années.
Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Et j'avais une petite dernière question sur les challenges de MoveCare et de Sivan. J'ai vu que vous aviez noué un partenariat avec BMS. Donc, comment s'est noué ce partenariat et pourquoi ce choix?
Pour moi, BMS a été le premier laboratoire pharmaceutique qu'on a rencontré qui a vraiment compris, qui a bien compris l'enjeu de MoveCare et l'intérêt de l'industrie pharmaceutique de s'associer avec une thérapie digitale. Au final, quand on réfléchit, on est des partenaires naturels. On a déjà les mêmes clients, hein, puisque ce sont les médecins, donc les mêmes utilisateurs. Et puis, on a un objectif commun qui est l'amélioration de la survie, l'amélioration de la qualité de vie et la thérapie numérique et le complément finalement idéal du médicament. Donc, avec BMS, on a compris tous les deux et ils ont bien compris que l'un n'avait pas vocation, n'était pas destiné à remplacer l'autre. MoveCare a vraiment pour vocation d'optimiser l'impact du médicament, alors que ce soit en permettant d'administrer le médicament au bon moment ou aussi en récupérant de la donnée patient qui va permettre d'adapter le médicament ou son dosage en fonction du besoin du patient.
Ça m'emmène tout de suite sur une question suivante. Quel est le futur de Sivan et de MoveCare?
Alors nous, Sivan, on va continuer à développer des outils médicaux innovants, avec toujours pour but de soutenir les professionnels de santé et d'aider les patients à avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure survie. Notre ambition, c'est d'étendre MoveCare à toutes les indications du cancer pour fournir une solution donc à tous les patients qui ont un cancer, et donc pas seulement en France, mais aussi à travers le monde.
Ah oui, en effet, c'est une très très belle ambition par rapport à ça. Peut-être une question juste subsidiaire, on va dire ça comme ça. Il y a une partie de l'équipe qui est dédiée au développement de nouvelles solutions chez Sivan et une partie qui est dédiée à MoveCare, ou tout le monde est uniquement sur MoveCare?
On est tout sur tout. On est une start-up, donc on essaye d'être polyvalent et de faire plusieurs choses à la fois. Donc, on est tous à la fois sur MoveCare, avec bien sûr une équipe en France qui va vraiment être dédiée pour le déploiement donc de l'application. Mais après, notre équipe R&D va à la fois donc être en charge de tout ce qui est maintenance, évolution, etc. de l'outil, et puis aussi réflexion et travailler sur le futur de la plateforme.
Donc là, il me reste trois petites questions pour terminer cet échange. Et peut-être une grosse question, qu'est-ce que tu penses de la maturité de l'écosystème e-santé français? Et est-ce que tu as déjà des comparaisons avec d'autres pays à faire?
Alors moi, je dirais que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait un peu de retard hein, au niveau de la e-santé en France. Et on peut dire qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait un manque d'investissement par le gouvernement. Il y a une peur aussi commune de tout ce qui est numérique. On se pose toujours des questions. Où va ma santé? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc parfois un manque d'acceptabilité finalement des outils numériques. Et puis jusqu'à donc il y a pas très longtemps, un pas de cadre réglementaire et pas de modèle économique. Mais encore une fois, et on revient un petit peu à la Covid, je pense que la Covid a vraiment accéléré encore une fois la prise de conscience de l'importance donc de l'outil numérique. Et on peut voir donc beaucoup d'initiatives de santé ces derniers temps. D'ailleurs, on a Emmanuel Macron qui a annoncé récemment des initiatives assez importantes avec un budget consenti qui est conséquent pour l'innovation numérique. Donc personnellement, je pense qu'on peut espérer que la France puisse reprendre un rôle de leader en matière de santé numérique. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que la France a été la première à rembourser une thérapie numérique en Europe. Donc, elle s'est quand même démarquée par rapport à ça.
Et bah c'est vrai que bah c'est encore mieux pour... C'est encore félicitations du coup pour Movecare, parce que c'est vrai que d'être les premiers en Europe, je pensais que c'était que la France, mais du coup, en Europe, c'est encore plus grand. Et du coup, tu penses que les investissements en santé, en e-santé, vont continuer à exploser ou ça va se stabiliser un petit peu par rapport à ce qu'on a vu notamment l'année passée ?
Non, bah, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a pu entendre Emmanuel Macron, je pense qu'il y a, beaucoup de... Il y a un gros budget hein, qui est consenti, donc je pense que dans les prochaines années, on va avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup de ressources qui sont allouées au développement de la e-santé et qu'on va rester dans ce train, surtout qu'à à mon avis, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on a compris que le digital était indispensable, on ne peut que rester dans ce train.
Et donc peut-être, est-ce que tu as un conseil pour une personne qui voudrait développer une thérapie digitale ?
Alors, peut-être quelques conseils. Disons, déjà, ce que je trouve qui a bien marché avec Movecare, c'est de partir bottom-up, c'est-à-dire de partir du professionnel de santé et du patient. Parce que, au bout du compte, la thérapie numérique doit répondre à un besoin et puis doit être aussi adaptée hein, par les médecins et par les patients, sinon ça marchera pas. Donc, il faut vraiment partir des utilisateurs. Et puis, bien sûr, je dirais qu'il faut valider cliniquement et avoir des preuves cliniques très fortes. Il faut prendre son temps pour avoir des preuves cliniques. S'il n'y a pas de preuves cliniques, la thérapie, ben, elle ne servira à rien et en tout cas, elle sera pas remboursée. Et donc savoir que tout ça, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, donc il faut être prêt pour un long chemin.
D'accord, ok, parfait, merci beaucoup pour ta réponse. Et allez, deux petites questions pour terminer. Quelle est ta plus grande fierté avec Sivan et Movecare ? Et peut-être une question un peu plus négative, quel est ton plus grand regret ?
D'accord, alors, bon, ma plus grande fierté, c'est simple, hein, c'est d'être les premiers à avoir obtenu remboursement pour une thérapie numérique en France. C'est pour moi c'est un accord qui restera dans l'histoire, qui marque une nouvelle façon de concevoir la santé, qui marque un monde où le digital permet d'améliorer le lien entre le médecin et le patient et qui permet vraiment au patient de devenir responsable et acteur de son suivi. Alors pour les regrets, moi pour l'instant j'ai pas encore de regrets, donc pas de regrets, je dirais juste des espoirs. Surtout celui que Movecare soit mis à disposition d'un maximum de patients en France et ailleurs.
On note ça et puis je prends rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour voir où vous en serez. Et peut-être c'est une question que je commence à poser dans le podcast. Est-ce que tu as un conseil de lecture pour nos auditeurs ?
Alors, déjà bon, j'ai trop de livres à recommander parce qu'on a la chance d'avoir une littérature parmi les plus belles du monde. Mais comme le sujet est le cancer, j'aimerais bien recommander un livre qui s'appelle « Anti-cancer, une autre façon de vivre » de David Servan-Schreiber. C'est un livre qui est fantastique parce que c'est la prise de conscience très en avance pour son temps. Le livre a été écrit en 2009, que la prise en charge du cancer doit être une approche holistique et pas que médicamenteuse, même si évidemment les médicaments sont parfois indispensables. Alors déjà, il faut manger différemment, le lien entre le cancer et la nourriture est aujourd'hui prouvé, mais aussi développer un esprit anti-cancer. Donc éviter la personnalité cancer, devenir auteur, acteur de son suivi, améliorer sa qualité de vie, au final, va avoir un impact direct sur le cours de la maladie. Donc il n'y a pas que les personnes qui ont le cancer qui doivent le lire, mais tout le monde. Parce qu'il s'agit aussi de prévenir l'apparition du cancer en vivant différemment, en mangeant autrement, en soignant son stress, en étant un acteur actif de sa santé. Et pour moi, ça va exactement avec MoveCare, avec ce qu'offre MoveCare, c'est-à-dire vraiment une médecine dite des 5P, personnalisée, préventive, participative et basée sur des preuves, où l'on invite finalement le patient à devenir un acteur engagé, responsable et un acteur essentiel de son suivi. Donc je pense que c'est un livre qui vaut le coup d'être lu.
Merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Et c'est vrai que l'impact de la prévention, il est quand même primordial en santé. Allez, la dernière question, on l'attend quand même. Est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré ou quelqu'un qui te stimule, de qui tu peux t'inspirer tous les jours?
Non. Non, je pourrais dire... Bon, je pourrais quand même dire qu'un explorateur qui m'a toujours fasciné, c'est Neil Armstrong, hein, le premier homme qui a marché sur la Lune. Je pense qu'il fascine tout le monde. J'aime bien sa phrase, un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité.
Ah, ça colle bien avec ce qu'a fait MoveCare finalement. Donc un petit pas, je ne sais pas si on peut dire un petit pas, mais en tout cas c'est un grand pas pour la santé.
Exactement, un grand pas pour la santé.
Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et merci beaucoup.
Merci beaucoup Myriadec.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.